Vous faites bien d'être à l'écoute d'Europe 1 et de notre spécial « Ils ont pensé l'Europe » car la carrière de Stéphane Bern est certainement un tournant. Stéphane, si je vous dis qu'aujourd'hui c'est évidemment un quiz sur l'Europe qui vous attend, mais qu'en plus ce n'est pas Clémentine que vous pouvez toujours soudoyer pour qu'elle perde que vous allez affronter, mais notre invité Clément Beaune, secrétaire d'État chargé justement des affaires européennes. Comment vous vous sentez ?
Baisé.
Allons, non, ne soyons pas défaitistes, jouons à Bern to be alive. Notre quiz qui commence toujours par la question 1, ce qui est assez logique, oui, puisque c'est le premier chiffre. Question pour vous Stéphane, quand on parle d'Europe, quand on évoque des coopérations européennes, on parle souvent d'espace. Le 24 décembre 1979, c'est le premier lancement d'Ariane. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un budget spatial de 16 milliards pour 2021-2027. Côté américain, il faut savoir que c'est quand même plus de 60 milliards. Mais la première fusée française s'appelait Véronique. Vrai ou faux ? Ne regardez pas notre invité qui ne va pas vous aider.
Ça me dit quelque
Elle avait
chose.
Un prénom français.
Mais moi, je ne peux pas vous aider.
Il te
je pose
de
la question.
Première fusée française.
Ah, ouais. Française ou européenne ? Française.
Je crois que c'est vrai, Stéphane. Ça me dit quelque chose. Ça m'évoque vaguement.
Ça, j'avoue que la conquête de
par Véronique.
Vous n'avez pas lu Tintin sur la Lune, Stéphane ?
Si. Mais c'est une question d'histoire, rassurez-moi.
Il préfère Tintin au Congo. Oui, alors. C'est une question d'histoire. Excusez-moi. Stéphane, c'est une question historique, oui.
Oui. Écoutez, je vais dire oui.
Vous pensez que la première fusée s'appelait Véronique ? Véronique, ouais. Canique, oui. C'est bon.
Vous avez gagné !
Et c'est une bonne réponse. Son premier lancement a eu lieu le 9 avril 1968. C'était une fusée sonde servant à étudier les couches de l'atmosphère. Véronique dépasse les 100 km d'altitude. Aujourd'hui, la conception et la fabrication d'Ariane est majoritairement française, mais l'Allemagne a un rôle majeur dans les lanceurs, l'Italie dans la propulsion, sans oublier aussi les Suisses, les Belges et les Suédois. Question numéro 2 pour vous, Clément Beaune. Question un peu plus pointue pour vous. Là. 1919, c'est l'après-guerre, c'est aussi l'arrivée en France du Coca-Cola. Aujourd'hui, si on se balade dans l'Union Européenne... c'est bon, pas, tu fais une question facile. Si on se balade dans l'Union Européenne, la boisson n'a pas exactement la même composition selon les pays. Vrai ou faux ?
Je pense que c'est faux.
C'est vrai.
On sait que c'est faux. On sait que si on boit du coca, quel que soit l'endroit de l'Europe,
le taux de sucre.
Mais Stéphane, on n'a pas le droit de vérifier sur le portable. Je vous l'ai déjà dit.
Je vais aider.
La radio est filmée désormais, Stéphane. Vous le savez, les gens voient que vous trichez.
On a envie de dire vrai, alors je dis faux parce que il faut jouer un peu.
Vous dites faux.
Ouais.
Vous avez. Perdu.
Il avait fait un sans faute, Clément Beaune, depuis son entrée au gouvernement. Et là, il suffit qu'il vienne sur Europe 1.
Ça va, c'est pas non plus.
Ah, vous savez, tout compte aujourd'hui.
Sur Rousseau, c'est pas mauvais.
Non, c'est vrai.
Sur Coca, un peu fait.
Figurez-vous que sachez que dans les pays moins riches, comme la Roumanie, la Bulgarie ou la Hongrie, le sucre est remplacé par l'isoglucose, deux fois moins cher, mais qui favorise le diabète. Au goût, c'est assez imperceptible. C'est déjà ça. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Alors ça, c'est une question facile, normalement, Stéphane. Donc là, ne vous ridiculisez pas, s'il vous plaît.
Oui, mais arrêtez de m'humilier.
Non, mais je préfère vous prévenir. Oui. Ça met un peu de pression. Le Conseil de l'Europe et le Conseil européen, ce n'est pas la même chose. Vrai ou faux ?
Ah, bien sûr, ce n'est pas la même chose.
Vous avez gagné !
Bravo Stéphane, vous avez super bien répondu. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation intergouvernementale regroupant 47 États membres.
Bien sûr.
Par exemple, les États-Unis, c'est un État observateur. C'est une
et même
organisation.
Monaco est dans le Conseil de l'Europe, je crois.
C'est dire.
Alors
la
Russie, dans la
Ça avait donné lieu à de grandes, d'âpres discussions au moment de l'adoption du drapeau européen, justement, le Conseil de l'Europe.
Vous savez tout, inutile. Que je m'étende sur le sujet. Question numéro
4. Je cherche un job.
Pour vous, Clément. 13 novembre 1994. Déjà, pourquoi le 13 novembre est une date importante ?
C'est parce que c'est ton anniversaire.
Merci. Oui, Stéphane, non, vous voir, souvenez-vous. 13 novembre 1994.
Dans quelques années
près. Référendum en Suède. Le peuple suédois dit oui à son adhésion à l'Union européenne, mais à une seule condition : qu'ils puissent continuer à consommer leur poudre de tabac à priser, pourtant interdite en Europe. Vrai ou faux ?
Alors je crois que c'est pas la seule condition, mais c'est vrai, ils ont une ils ont une dérogation, je crois que ça s'appelle le snus, le tabac à priser, et c'est autorisé en Suède, il me semble.
Vous avez gagné.
Et là, c'est 2 points pour Clément Beaune, Stéphane, parce que c'est non seulement la bonne réponse, mais il nous l'a dit, c'est le snus, une poudre mise dans un petit sachet qui se met entre la gencive et la lèvre supérieure pendant quelques minutes. C'est interdit en Europe, mais avant d'adhérer, la Suède a négocié de pouvoir continuer à en consommer. Un Suédois
c'est
sur 5 le fait.
C'est du tabac prisé
ou mâché. C'est un petit carré que vous mettez sous la gencive. C'est
un,
bon.
Comme un shoot de nicotine. C'est quoi? C'est le goût qui est super bon.
Je ne suis pas fumeur, je ne peux pas comparer.
Moi, comme information, j'ai le snus n'est pas inhalé, dont il n'affecte pas les poumons. On n'a trouvé aucune corrélation scientifique entre sa consommation et le cancer pour les humains,
c'est
ce qui est
top.
Et
pourquoi il est interdit
ça,
en Europe?
Mais
c'est ça la question.
Je crois que c'est pas très bon pour la gencive.
Pour les gencives, ça doit être moins bon. Ah, j'ai pas de détails, si vous voulez, médicaux là-dessus.
C'est comme le clou de girofle, hein, quand on a une rage de dents. Ouais.
Ah oui, d'accord, c'est comme le clou de girofle. Pour ah vous,
non, le clou de girofle, si je puis me permettre, cher collègue, est curatif.
Oui, ce qui ça brûle la gencive aussi.
Ah oui? Mais vous ne le mettez pas sur la gencive, vous le mettez sur la dent.
Bah, c'est difficile de faire l'un sans l'autre.
Oh, quand même. Ou alors vous avez...
Bon, ça suffit.
Stéphane, oui. Égalité.
Incroyable.
Tout se joue sur l'ultime question. Oui, c'est la question de rapidité, la fameuse question 5. Je vous donne 4 propositions. Vous attendez bien que j'ai donné ces 4 propositions et vous me dites laquelle est la bonne. Pour la population européenne, attention, ça va aller très vite, c'est très simple. Quelle est la langue maternelle la plus utilisée? 4 propositions, l'anglais, l'espagnol, l'allemand ou le polonais?
Espagnol.
Allemand.
Victoire! Et c'est logique de Clément Beaune.
Il y a plus que
la hiérarchie gouvernementale est respectée.
Oui,
Clément,
bravo.
Et ensuite Stéphane Bern. Oui, c'est l'allemand, effectivement, à 16% pour l'allemand.
Stéphane était coopératif, il voulait gagner.
L'italien et l'anglais, 13%. Ouais. 12% le français, l'espagnol et le polonais pour seulement 8%. Vous avez dit vraiment
n'importe quoi,
Stéphane.
Maintenant que les Anglais ne sont plus là, on pourrait reprendre le français comme unique langue européenne.
Mais il y a quand même l'Irlande et Malte qui l'utilisent comme langue officielle. Et le paradoxe, c'est que vous avez des gens qui vous disent, comme c'est plus la langue d'un grand pays, c'est neutre et donc c'est notre langue commune, etc.
Ouais, et puis tout le monde parle le globish en plus, donc ça sera difficile de revenir en arrière, hélas.
Non, il faut se battre pour le français.
Ouais, il faut se battre pour le français, oui.
Il avait réussi Sciences Po, il a réussi l'ENA, il est au gouvernement, mais dans son CV, c'est la ligne la plus prestigieuse désormais. Il a remporté Bern to be alive. Bravo Clément.